Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Est-on soigné différemment lorsque l'on est une femme ou un homme ? Les organismes féminins et masculins réagissent-ils de la même façon au traitement ? Et certaines maladies sont-elles davantage dépistées chez les hommes que chez les femmes ? Autant de questions sur lesquelles nous allons revenir pendant cette émission intitulée « Femmes et santé ». Ou plutôt, comment le genre influence-t-il la prise en charge médicale ? Car la médecine, elle aussi, attribue aux hommes et aux femmes des caractères liés à leur perception sociale. Alors on va le voir, ces perceptions de genre, dans certains cas, ne correspondent pas à la réalité physiologique, d'où des sous-diagnostics et des campagnes de prévention qui peuvent manquer leur cible et dans certains cas même, des recherches cliniques pas toujours adaptées à leur public réel. Autant d'éléments qui montrent que cette question du genre en matière de santé n'est pas simplement une affaire de croyance, mais bien de compétence, puisque ces inégalités ont un coût en termes humains. Avec nous en studio, Catherine Vidal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste, membre du comité d'éthique de l'INSERM, co-responsable du groupe de travail Genre et recherche en santé. Et vous avez co-signé avec Muriel Salle le livre intitulé « Femmes et santé, encore une affaire d'hommes » publié aux éditions Belin. Ce groupe de l'INSERM auquel vous appartenez également, Jennifer Merchant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Panthéon Assas Paris 2. Et tout à l'heure, on retrouvera en ligne de Dakar le docteur Diorn Diaye, chirurgien pédiatrique au Sénégal et membre de l'ONG africaine de santé publique, l'AMREF. En fin d'émission, comme chaque jeudi, nous retrouverons la chronique du docteur Catherine Solano, sexologue. Et puis bien sûr, le numéro de Priorité Santé pour réagir et laisser vos questions. C'est le 33 1 84 22 75 75. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette question. Je le reconnais, elle est un petit peu provocatrice, Jennifer Merchant. Est-ce que la médecine est sexiste ?
C'est vrai, c'est une question provocatrice. Je ne dirais pas qu'elle est volontairement sexiste. Je dirais qu'avec le poids de l'histoire et des représentations sociales des hommes et des femmes, il lui arrive à la médecine et aux médecins de se tromper parce que eux-mêmes sont assujettis à ces représentations, ça parfois sans même s'en rendre compte.
La confusion, Catherine Vidal, c'est la confusion commune entre sexe et genre, peut-être ?
C'est pas une confusion. Au cœur de la question qui fait qu'on est là aujourd'hui, c'est que on veut s'intéresser non seulement aux différences de santé entre les femmes et les hommes qui sont dues à des facteurs biologiques, mais il existe aussi des différences de santé qui sont liées à des inégalités dans la prise en charge médicale et dans l'accès aux soins. Et ces inégalités liées justement à des pratiques médicales et aussi à la façon dont les patientes et les patients vont exprimer leurs symptômes, ces inégalités vont en fait entraîner des discriminations entre les femmes et les hommes.
Précisément, Catherine Vidal, dans votre livre « Femmes et santé », vous expliquez par exemple que certaines maladies sont étiquetées féminines ou masculine, avec des conséquences qui peuvent se révéler graves. Par exemple, quand on parle de maladies cardiovasculaires, en particulier d'infarctus du myocarde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ?
Oui, c'est un sujet particulièrement intéressant parce qu'il illustre justement l'importance pour les médecins et les personnels soignants et aussi pour les patients de réaliser que parfois nos attitudes sont un petit peu biaisées à cause des représentations qu'on a du masculin et du féminin. L'infarctus du myocarde est considéré très souvent comme une maladie d'homme stressé au travail. C'est-à-dire que, par exemple, à symptômes égaux, on va dire une oppression dans le thorax, Une femme sera davantage traitée avec des anxiolytiques, avec des antidépresseurs, alors qu'un homme va être plus souvent dirigé vers un cardiologue. Or, ce genre de vision très biaisée des symptômes, qui est souvent inconsciente de la part des personnels soignants, ça a des conséquences extrêmement graves, parce que quand on regarde les statistiques, 56% des femmes meurent de maladies cardiovasculaires contre 46% des hommes. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. Et par exemple, le cancer du sein n'est qu'à la 10e place.
Et qu'en particulier pour les maladies cardiovasculaires, le facteur temps est très important. Plus la prise en charge est précoce, mieux justement cette pathologie sera prise en charge et traitée.
Oui, on a aussi des données statistiques qui montrent que quand une femme arrive dans un service d'urgence avec des signes qui sont avant-coureurs d'un infarctus, elles seront moins vite prises en charge que si c'est des hommes. On va tarder un peu plus à leur faire un électrocardiogramme.
Alors certaines femmes en sont victimes, on vient de le comprendre, mais des hommes aussi, puisqu'il y a des pathologies qui souffrent de mêmes préjugés liés au genre, avec le même genre d'effet. Sous-diagnostic, par exemple, pour les hommes de l'ostéoporose.
Oui, l'ostéoporose est une maladie liée à la déminéralisation du squelette qui devient plus fragile. Or, on a longtemps considéré que l'ostéoporose était seulement une maladie de femmes ménopausées, parce qu'elle se déclare plus souvent à la ménopause. Or, quand on regarde la réalité à nouveau des statistiques, on s'aperçoit que chez les hommes, qui peuvent aussi bien sûr faire des fractures de la hanche, eh bien un tiers de ces fractures sont dues à l'ostéoporose. Or, ce sous-diagnostic des risques d'ostéoporose chez les hommes est également très grave parce que, comme vous le savez, les handicaps qui font suite à des fractures ont un énorme coût, non seulement financier, mais un coût humain pour la société, d'autant plus que la population, son âge, les espérances de vie ne font que s'accroître.
Et d'autant plus qu'au moment de la ménopause, des femmes peuvent avoir des campagnes d'information, de sensibilisation justement pour pallier à cette parfois décalcification ou déminéralisation osseuse, ce qui n'est pas forcément le cas chez les hommes. Il n'y a pas les mêmes campagnes ciblées pour les hommes pour la prévention de l'ostéoporose.
Voilà, et c'est ça l'objet de politiques publiques qui doivent aussi s'intéresser à la prévention et inciter les femmes à faire surveiller leur cœur et les hommes à faire surveiller leur squelette.
Jennifer Merchant, comment ces représentations sociales influencent-elles le jugement des médecins, par exemple? Ça se passe comment en consultation? Les médecins s'attendent à ce que telle femme souffre plutôt de telle pathologie par rapport à un homme? Il n'y a pas une vision globale de la maladie, quel que soit le genre, quel que soit le sexe?
Je pense que le médecin, à son corps défendant, est un être humain comme nous tous et pétri de représentation des hommes et des femmes. Et l'histoire est longue de ces représentations qui fait de la femme, ou qui a fait depuis des siècles des femmes, des êtres différents des hommes, faibles, plus faibles, sexe faible, ayant une nature, entre guillemets, différente de celle des hommes. Et ces préconceptions, ces préjugés sur la différence entre des femmes et des hommes agit forcément dans la réflexion d'un médecin lorsqu'il a devant lui un homme ou une femme.
Alors cette réflexion globale, bien sûr, là on parle en particulier du secteur de la santé, mais elle s'inscrit dans un processus sociologique et historique qui est lié en particulier, Jennifer Merchant, à la lutte pour les femmes, les grandes causes féministes des années 60 et 70 aux États-Unis. C'est justement parti de là-bas, des États-Unis, avec en particulier un point précis, c'est l'entrée des femmes dans les protocoles de tests de médicaments.
Oui, absolument. Mais même avant, si vous voulez bien, qu'on revienne un petit peu plus dans l'histoire, les travaux, les scientifiques depuis des siècles, comme je disais tout à l'heure, tentaient de définir, de prouver l'infériorité des femmes par rapport aux hommes. Et on a eu toute une série depuis les trois derniers siècles d'hypothèses et de théories expliquant d'abord les humeurs de la femme qui expliquaient sa faiblesse, faiblesse, la nature de la femme, l'être malade, constamment malade à cause de ses menstrues, ses accouchements difficiles et la ménopause. Et au 19e siècle, il y a eu la première vague des féministes, c'était des suffragettes, qui demandaient l'égalité du vote, comme nous le savons tous. Et même elles ont argumenté en faveur de le droit de vote parce qu'elles avaient une nature plus emphatique et qu'elles pouvaient influencer de façon positive sur sur la vie politique du pays, que ce soit les suffragettes en Angleterre ou aux États-Unis. Donc même jusqu'à la fin du 19e siècle, les féministes ou les suffragettes intériorisaient toutes ces notions de différence scientifiquement prouvées, entre guillemets. Et au 20e siècle, vous faites référence à la deuxième vague du féminisme qui s'est consolidée à peu près à la fin des années 60 aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en France aussi. Il y a eu une prise de conscience, notamment par des femmes médecins et des femmes chercheurs, que les protocoles de recherche qui étaient menés n'incluaient pas des femmes. Notamment, il y a eu aux États-Unis des représentantes politiques de l'Assemblée, de l'équivalent de l'Assemblée nationale américaine, qui ont constaté que des recherches sur le cancer du sein étaient effectuées exclusivement sur des hommes. Elles se sont mobilisées grâce quand même à l'enthousiasme et aux demandes et aux revendications d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les autres sphères de la société. Elles se sont mobilisées au sein du Congrès pour que les grandes agences fédérales, les grandes agences de recherche et de science fassent en sorte que les femmes soient d'abord prises en charge dans les protocoles de recherche, mais ensuite elles sont allées jusqu'à demander et à obtenir un budget spécial consacré aux études de genre en santé et en médecine au sein de deux grandes agences, the National Institute of Health and the FDA. Donc, effectivement, les féministes y sont pour beaucoup, ainsi que des femmes elles-mêmes, chercheuses, scientifiques et médecins, pour lancer cette idée qu'une nécessité de changer le paradigme des recherches pour inclure les femmes et les hommes, améliorer la santé des femmes et des hommes.
Ce qui embrèche d'ailleurs les préjugés anti-féministes qui tentent à démontrer que c'est une vision purement égalitaire. Là, c'est exactement l'inverse. C'est des spécificités. Eh bien, remettre en cause, Catherine Vidal, des inexactitudes sur ces différences.
Oui, les inexactitudes, en fait, dans la façon de mener des protocoles de recherche. Et aussi, en particulier, hein, c'est ce manque de femmes dans les essais cliniques. Hein. Un essai clinique, ça veut dire que quand on veut tester de nouveaux médicaments, pour les mettre au point, auparavant, il faut faire des tests dans des échantillons de population pour regarder si ces substances nouvelles ne sont pas toxiques. Ça a été quand même une révélation, hein, qui a été faite dans les années 70-80 aux États-Unis, que dans la majorité justement de ces essais, on ne faisait pas d'essais de molécules sur la même proportion d'hommes et de femmes, et que en général, c'était une majorité écrasante de tests qui étaient faits chez les hommes, y compris pour tester des substances qui pouvaient améliorer la santé des femmes. Donc, c'était vraiment quelque chose de tellement contradictoire qu'il y a eu effectivement beaucoup de répercussions dans les milieux médicaux et ultérieurement, le Congrès américain a dû faire des lois pour obliger les industries pharmaceutiques à inclure dans ces fameux essais cliniques des femmes et aussi les minorités ethniques.
Parce que ce que l'on voyait aussi, c'est qu'il y avait par exemple des effets indésirables complètement différents sur les organismes féminins et masculins, et aussi des degrés par exemple sur certains vaccins avec moins de produits, de principes actifs, les femmes y étaient plus sensibles que certains hommes. C'est ce que j'ai lu dans un certain nombre d'articles.
Voilà. Effectivement, on a pu avoir des études qui montraient que les réactions étaient radicalement différentes sur certains aspects liés à l'allergie, à comment faire que le médicament puisse être ensuite éliminé dans l'organisme. Mais là, on arrive à un point un petit peu plus délicat, qui est celui que, très souvent, si on observe ce type de différence, c'est lié à la stature de l'individu, au fait que les hommes sont souvent d'un poids supérieur à celui des femmes, qu'ils n'ont pas le même métabolisme, hein, la même façon justement d'assimiler un certain nombre de substances. Et donc, il faut faire des études en fait bien plus documentées que simplement se dire c'est simplement dû au fait qu'on est un homme ou une femme. C'est évidemment dû à la stature, au volume corporel, à la masse musculaire, à la répartition des graisses, qui sont des facteurs très importants dans la façon dont on va éliminer un médicament potentiel.
Priorité santé sur RFI.
Et nous continuons à nous intéresser aux différences de genre en matière de santé. Comment les normes sociales et les stéréotypes peuvent freiner une prise en charge efficace dans certains cas? Une problématique plutôt récente, Catherine Vidal, puisque l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ne préconise que depuis 2008 de prendre en compte les spécificités entre les hommes et les femmes dans les actions de santé. Comment expliquer justement que cette préoccupation soit aussi récente?
Elle est aussi récente parce que il a fallu du temps, comme ça se passe en général, pour changer un petit peu les mentalités et les regards sur ce que représentent le masculin et le féminin. Dans les milieux de la médecine et de la santé en général, disons que classiquement, on avait plutôt tendance à mettre en avant les différences biologiques, purement biologiques. Elles existent, bien évidemment, les différences biologiques entre les femmes et les hommes. Hein, on est différent dans l'anatomie, dans la physiologie, dans les chromosomes. Ça, c'est une réalité. Mais les différences et les inégalités dans la santé, ce n'est pas pareil. Vous voyez, il faut faire la distinction entre différence et inégalité. Et la prise de conscience a été plus récente de se dire que s'il y avait des différences dans la santé, cela pouvait être précisément dû à des inégalités dans la façon dont les personnes ont accès aux soins et dans la façon dont elles vont être prises en charge dans les protocoles médicaux.
Avec une sorte de norme, hein, cette norme masculine qui touche beaucoup de secteurs, Jennifer Marchand, puisque on s'aperçoit aussi, par exemple, que les critères de reconnaissance des maladies professionnelles sont fondés sur le travail au masculin et pas sur le travail féminin.
Vous entendez par travail féminin
Par exemple, beaucoup de maladies professionnelles concernaient des secteurs à une époque où il n'y avait que des hommes qui travaillaient, secteur minier, secteur du bâtiment, et en fait très peu de maladies professionnelles touchent des secteurs féminins mixtes ou féminins.
Oui, d'accord, je vois très bien. Oui, effectivement, tout ceci est dû au fait que les femmes travaillent comme les hommes autant, mais pas depuis des siècles, mais depuis seulement le XXe siècle. Donc, encore une fois, comme disait Catherine Vidal, on a pris le temps de repenser les conditions de travail et qu'est-ce que cela fait aux femmes qui travaillent et qui ont en plus ce qu'on appelle la double journée. Donc, le temps étant, je pense que maintenant, on est en train de réaliser cela. L'Europe, par exemple, a le programme Horizon 2020. Pour toute demande de financement de recherche en biomédecine et dans d'autres secteurs aussi, il faut intégrer le facteur genre pour pouvoir être éventuellement sélectionné pour une subside.
C'est des points sur lesquels on va revenir dans la deuxième partie de l'émission. Vous restez avec nous, Jennifer Merchant, Catherine Vinal, dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler de la question du genre en matière de santé, comment les normes sociales peuvent altérer la prise en charge des patientes, mais aussi des patients.
Priorité santé. Caroline Paré.
pour cette deuxième partie de Priorité Santé intitulée « Femmes et santé » pour reprendre le titre du livre signé par la neurobiologiste Catherine Vidal qui est toujours avec nous et qui travaille au sein du groupe de travail de l'INSERM « Genre et recherche en santé » aux côtés de Jennifer Merchant, professeure à l'université Panthéon-Assas Paris 2. Catherine Vidal, est-ce que les femmes se soignent de la même façon que les hommes, par exemple, en termes d'observance du respect des prescriptions? Est-ce qu'il existe des différences dictées par le genre?
Oui, il existe évidemment des façons d'aller consulter, de s'adresser aux médecins, qui ne sont pas exactement les mêmes entre les femmes et les hommes, à cause, justement, d'une influence de la culture qui va faire que les femmes vont plus facilement aller consulter. Elles vont consulter non seulement pour elles, assez souvent pour des problèmes liés à la gynécologie, par exemple, mais elles vont aussi consulter pour les enfants. Et donc, il y a une proportion plus importante de femmes qui vont pouvoir aller en consultation et être prises en charge comparativement aux hommes qui souvent ne sont pas très enthousiastes pour aller consulter. Mais ça, ce n'est qu'un aspect des choses. Il y a un autre aspect des choses qui relève de conditions sociales et économiques. En particulier, les femmes peuvent souffrir de situations de précarité économique avec des bas salaires, avec des emplois à temps partiel, avec le chômage, qui va faire que ces femmes en précarité économique vont renoncer aux soins et vont donc mal se soigner et être prises en charge. Et cette précarité économique va aussi entraîner des problèmes d'hygiène de vie, des problèmes d'hygiène alimentaire, des problèmes d'obésité, des problèmes de consommation d'alcool ou excessive de médicaments qui vont pouvoir aussi se répercuter sur la santé des femmes. Donc il faut vraiment considérer la santé des femmes et des hommes dans un ensemble, c'est-à-dire que les problèmes de santé d'une façon générale, ce n'est pas qu'un problème de biologie, c'est aussi un problème de société.
Un problème de société et ce, dès les premières années de la vie, vous le signalez dans votre livre, Catherine Vidal, déficit de prise en charge de certaines pathologies, comme l'autisme sous-diagnostic chez les petites filles, et ce, en raison du caractère supposé des petites filles.
Oui, à nouveau, on a affaire à ces représentations sociales de ce que représente le masculin, le féminin, y compris dans les comportements des petites filles et des petits garçons. Si un enfant est peu enclin à aller jouer avec les autres, reste replié sur lui-même, si cela est observé chez une fille, on va plutôt dire « Ah, elle est timide, elle est réservée », alors que les mêmes comportements chez un garçon vont être plus facilement interprétés comme un trouble de la communication. Et en résultat, le résultat est que les filles vont être sous-diagnostiquées concernant les symptômes associés à l'autisme. Et il y a aussi un autre facteur qui fait que si il y a ces difficultés justement d'interaction sociale liées à l'autisme. Comme les petites filles, elles ont également intégré un peu plus que les garçons la facilité de s'exprimer par le langage. Comme elles sont aussi plus sages et moins agitées, on va détecter les symptômes de l'autisme bien plus tard. Donc cet ensemble de facteurs liés vraiment à la culture et à l'éducation vont faire que l'expression des symptômes et le regard de l'entourage va entraîner ce retard et ce sous-diagnostic de l'autisme.
Alors, des confusions, hein. On retrouve ce que vous nous disiez un petit peu tout à l'heure, Jennifer Merchant, dans la confusion entre l'état physiologique et pathologique chez la femme, pour schématiser entre les règles, la grossesse, la ménopause, les changements liés à l'adolescence. C'est comme si la femme était une sempiternelle malade, si bien que lorsqu'elle exprime réellement des symptômes d'une maladie, par exemple on pense à l'endométriose, eh bien cet appel au secours, en quelque sorte, il est moins entendu, puisque finalement, je schématise bien sûr, oui, elle n'arrête pas de se plaindre.
Absolument. Cette idée de la femme éternelle malade remonte au 18e, 19e siècle, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure. Et en effet, l'endométriose est pour, enfin, si vous voulez, reconnue aujourd'hui dans les campagnes de santé en France, mais aussi à l'étranger, comme étant une affection grave pour les femmes, alors qu'autrefois, on s'y penchait pas du tout sur ces questions, sur les symptômes qu'elles exprimaient et sur leur infertilité. Donc il y a effectivement cette un osmose entre les représentations que nous avons des femmes, nous tous, hein, et les symptômes qu'elles peuvent présenter et qui ne sont pas pris au sérieux. Heureusement, les choses sont en train de changer.
Et ça passe aussi justement ces changements par la formation, hein, et par la sensibilisation des personnels soignants, Catherine Vidal, des politiques de santé publique et d'éducation.
Oui, dans ce domaine, il est clair qu'il faut faire un effort très important dans la formation initiale des personnels soignants, c'est-à-dire pendant leurs études. Par exemple, il faut leur apprendre à considérer toujours cette notion d'articulation entre sexe et genre, alors que on en a parlé déjà tout à l'heure. Hélas, dans ces milieux médicaux, on a trop tendance à dire ce sont uniquement des aspects biologiques qui vont entraîner les différences de santé et on va moins porter d'intérêt aux autres aspects. Il y a aussi un point qui est très important dans la formation des médecins, c'est aussi de s'intéresser à la santé sexuelle et reproductive des femmes, d'être à l'écoute de leurs besoins et aussi d'être capable de s'intéresser au fait qu'elle puisse être aussi victime de violences. Et donc, il faut, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de programmes spécifiques pour apprendre dans les consultations à parler de sujets qui parfois ne sont pas évoqués par les personnes, mais qui existent bel et bien. Donc ça, c'est un aspect de la formation. Il y a aussi une formation importante qu'il faut faire auprès des chercheurs qui font des études dans le domaine biomédical. On va prendre l'exemple dont on parlait tout à l'heure, celui de l'ostéoporose. Bon, on a très longtemps pensé que l'ostéoporose était due au fait que, au moment de la ménopause, le manque d'hormones va contribuer à déminéraliser le squelette. Mais si on s'intéresse avec un regard plus large à la ménopause, hein, puisque la ménopause existe aussi chez les hommes, bon, on s'aperçoit qu'en fait, il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la minéralisation du squelette, et en particulier, ces facteurs sont liés à l'exercice physique et aussi à l'alimentation. Et c'est au moment de l'enfance et de l'adolescence que l'exercice musculaire, justement, et l'alimentation vont jouer un rôle pour se former un capital osseux. Et on sait bien que les différences entre les filles et les garçons, où les garçons vont souvent avoir plus d'activités physiques et sportives, quant aux filles qui en ont moins, si on leur dit qu'il faut qu'elles aient la taille mannequin et si elles réduisent leur consommation alimentaire pour être comme les normes en vigueur, à ce moment-là, elles vont avoir des carences et ça va se répercuter sur leur capital osseux. Donc, quand on pense justement à ne serait-ce qu'à l'ostéoporose et qu'on élargit les questionnements, ça revient à justement faire une meilleure médecine. Ça revient aussi à se dire quels sont, de façon moléculaire, cellulaire, sur le plan de la recherche fondamentale, l'effet de l'alimentation sur les cellules osseuses.
Vous voyez ? Ça réoriente tous ces champs.
Ça réoriente et ça permet de mieux soigner ensuite parce qu'on va avoir des nouvelles connaissances acquises grâce à cette vision plus large qui prenne justement l'articulation sexe et genre en compte.
Catherine Vidal, Jennifer Merchant, vous restez avec nous. On va partir maintenant pour le Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Dakar, où l'on retrouve le docteur Dion Diaye. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgienne pédiatrique et membre de l'AMREF. Docteur Ndiaye, cette question des inégalités hommes-femmes face aux questions de santé, elle se pose hein, dès le départ en termes de formation. Vous êtes d'ailleurs l'une des rares femmes chirurgiennes au Sénégal. Vous dites chirurgienne Est-ce que l'on a des chiffres justement de cette féminisation de la profession médicale au Sénégal ?
Je commencerai par dire que effectivement, la profession médicale s'est beaucoup féminisée ces 20 dernières années, où les effectifs à l'entrée en faculté de médecine ont connu une inversion des tendances, ont atteint parfois une égalisation sur certaines promotions, voire même une prédominance de femmes, et surtout pour certaines spécialités. Je veux parler de la gynéco-obstétrique, de la pédiatrie. Il reste néanmoins quelques spécialités encore réservées aux hommes et beaucoup plus liées aux réalités socioculturelles. Je peux citer l'exemple de l'urologie, andrologie.
Ça veut dire qu'il y a des spécialités qui restent complètement masculines. C'est le cas en particulier de la vôtre, la chirurgie. Est-ce que vous savez combien il y a de femmes chirurgiens au Sénégal ?
Je ne peux pas donner un chiffre exact concernant les femmes en chirurgie au Sénégal, mais rien que dans ma spécialité, en 2015, sur 12 chirurgiens pédiatriques au total, nous n'étions que 5 femmes.
Est-ce que selon vous, ça change justement la prise en charge des patientes et des patients ?
À mon avis, sur la globalité de la prise en charge, je dirais que non. Mais sur pour une approche des familles, des patients, le fait d'être femme a effectivement un plus à apporter. Parce que en dehors de notre statut de praticien, nous sommes d'abord femmes, mères et composantes de la société dans sa globalité, avant de venir porter la casquette de soignante.
Merci beaucoup, docteur Dion Diaye, d'avoir été en ligne de Dakar au Sénégal, où je rappelle, vous êtes chirurgienne pédiatrique et membre de l'AMREF. Catherine Vidal, la profession de médecin, c'est indéniablement féminisé en France. La tendance se confirme. Mais est-ce qu'il existe encore des secteurs qui restent chasse gardée pour les hommes ?
Oui, les secteurs, il n'y a pas un secteur particulier. Mais dès qu'on monte dans la hiérarchie au cours de la carrière, dès qu'on vise des postes de responsabilité, il y a de moins en moins de femmes, alors qu'il y en avait énormément au départ. Et il y a ce qu'on appelle le plafond de verre qui fait que, au sommet de la hiérarchie, les femmes s'évanouissent. Alors qu'en plus, en médecine, elles sont largement majoritaires. Donc, ça veut dire que ce milieu est particulièrement... Enfin, il y a un énorme travail dans le milieu des personnels médicaux à faire pour justement qu'il y ait plus d'égalité des chances entre les femmes et les hommes pour accéder à des postes de responsabilité.
Vous voulez réagir, Jennifer Merchant ?
Oui, je voulais parler... Concernant les chiffres aux États-Unis, un domaine que je connais un petit peu mieux, la chirurgie reste indéniablement la discipline noble chez les médecins, les soignants, et reste encore très largement masculinisée. Il y a beaucoup moins de femmes chirurgiennes que les hommes chirurgiens, alors que, comme disait Catherine Vidal, aussi aux États-Unis, les études de médecine sont à majorité remplies de femmes, de jeunes femmes.
Ce qu'on voit en France, c'est que certaines spécialités sont très féminisées, hein, endocrinologue, gynécologue, dermatologue, pédiatre, 2/3 ce sont des femmes. Et en France aussi, chirurgiens, ce sont essentiellement des hommes, et surtout professeurs des hôpitaux. Ça, c'est vraiment quelque chose où ce sont très peu de professeurs avec un E à la fin, Catherine Vidal. Ceux qui transmettent aussi aux autres le savoir.
Oui, le savoir n'est pas transmis que par les personnes qui sont au sommet de la hiérarchie. Il y a tout un tas.
Statutairement parlant, en tout cas.
Il y a tout un tas de personnes qui se chargent justement beaucoup de l'enseignement, et il y a beaucoup de femmes, entre autres. Mais il faut remarquer que certaines disciplines médicales les femmes vont, ils seront plus nombreuses parce que aussi ces disciplines correspondent à soi-disant des qualités dont elles seraient porteuses. Si elles sont nombreuses dans la pédiatrie, c'est parce que elles ont cette longue histoire qui fait que soi-disant elles seraient peut-être plus à l'écoute des enfants que les hommes. Et on sait bien que s'il y a plus d'écoute, peut-être, mais cela n'a rien de biologique au départ. Hein, c'est simplement un formatage culturel qui va faire que les femmes vont s'adresser plus aisément auprès des enfants. Et c'est pour ça aussi que la chirurgie, qui est un métier où il faut avoir une certaine prestance physique, si j'ose dire, sans trop caricaturer, c'est-à-dire que il faut une certaine, les chirurgiens ont une image d'autorité, et les femmes n'osent pas s'engager forcément dans ces disciplines où la concurrence est telle qu'elles vont avoir un mal fou à se frayer un chemin parmi tous les collègues étudiants hommes.
Alors, on l'a compris, hein, Catherine Vidal, c'est notre conclusion. Une réflexion qui est assez récente, qui est en pleine évolution. Quelle piste, justement, pour faire bouger les choses ?
Pour faire bouger les choses, il faut vraiment que l'on considère la santé au-delà de simples différences biologiques, mais que la santé fait partie intégrante des grandes préoccupations sociales et politiques dans le monde d'aujourd'hui, et que derrière les démarches qui ont pour objet de construire une culture plus égalitaire dans la médecine, il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique qui permette à la fois la formation des étudiants, des praticiens et du grand public.
Jennifer Merchant, même question pour faire bouger les choses avec ce double regard entre la France et les États-Unis.
Je pense qu'il faut évidemment qu'il faut une très forte volonté politique. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques français aujourd'hui qui l'ont. À côté de ça, il faut aussi des moyens. Et donc, il faut la création de structures au sein des agences de recherche, au sein des ministères, qui se penchent sur ces questions de l'articulation entre sexe et genre, comme on l'a vu dès les années 80 aux États-Unis, au sein de la NIH et le FDA.
Merci beaucoup, mesdames. Merci, Jennifer Merchant, professeure à l'Université Panthéon-Assas II, tout comme Catherine Vidal, membre du comité d'éthique de l'INSERM, co-responsable du groupe de travail Genre et Recherche en Santé. Catherine Vidal, neurobiologiste, qui a signé avec Muriel Salle le livre « Femmes et santé, encore une affaire d'homme ». Point d'interrogation, on l'a compris, pas vraiment un point d'interrogation, publié chez Belin. Bonjour docteur Catherine Solano.
Bonjour Caroline.
Vous êtes sexologue et nous vous retrouvons comme tous les jeudis. Vous avez choisi de nous expliquer comment faciliter aujourd'hui l'orgasme féminin. Pourquoi ces explications ? Est-ce que cet orgasme féminin est si difficile que cela à atteindre ?
Bon, il n'est pas forcément très difficile, mais en général, il est beaucoup plus difficile à atteindre que l'orgasme masculin. Typiquement, au début de la vie sexuelle, la question des hommes, c'est comment retarder mon orgasme. Alors que la question des femmes, c'est plutôt comment déclencher un orgasme. Donc, c'est une tendance générale.
Alors, pourquoi cette différence homme-femme ?
On pense qu'un homme, pour se reproduire, il a besoin d'avoir une éjaculation. Et donc, l'évolution a sélectionné des hommes qui avaient une éjaculation rapide, alors que les femmes n'ont pas besoin d'avoir un orgasme pour se reproduire. Donc, l'évolution n'a pas sélectionné spécialement des femmes qui ont un orgasme rapide.
Alors là maintenant, on passe aux conseils pratiques. Hein. Que peut faire une femme justement pour faciliter son accès à l'orgasme ?
Alors ça, c'est une question très importante parce que certaines femmes ont l'impression que c'est l'homme qui doit tout faire. Or, c'est faux. Une femme, elle doit d'abord aller à la rencontre de son plaisir. C'est pas seulement son partenaire qui est en cause. La première chose à faire pour une femme, c'est d'augmenter ses tensions musculaires. Certaines femmes disent, moi j'ai trouvé la technique pour avoir un orgasme, je contracte tous mes muscles, mes poings, mes fesses, mes abdos et tout, et l'orgasme vient plus facilement. Parce qu'on sait que les tensions musculaires accélèrent la survenue de l'orgasme.
Et l'autre point important, c'est la respiration.
Voilà, la respiration, c'est important parce que l'orgasme va déclencher des contractions musculaires rythmiques. Pour ça, il faut que les muscles soient oxygénés. Donc, certaines femmes qui sentent avoir du plaisir qui monte, elles bloquent leur respiration et ça empêche l'orgasme de venir, donc il faut respirer. Et puis alors, il y a une chose importante, c'est un mouvement de bassin qui fait onduler le bassin. Beaucoup de femmes ont du mal à avoir des orgasmes parce qu'elles ont le bassin bloqué, donc il faut apprendre à le libérer. Vous savez, un petit peu comme ce que font les danseuses orientales qui font la danse du ventre. Et donc, il faut faire ce geste-là pendant l'amour. Puis un autre conseil, ça peut être intéressant de s'occuper de la position des jambes. Il y a des femmes qui disent « moi j'ai un orgasme seulement si mes jambes sont écartées » et d'autres qui disent « moi j'ai un orgasme seulement si mes jambes sont serrées ». Ça, ça dépend de l'histoire du corps et des découvertes des sensations érotiques et sensuelles au niveau de la zone sexuelle pendant l'enfance. Si une petite fille a eu des contacts au niveau du clitoris et de la vulve en serrant ses jambes, elle aura à l'âge adulte plus facilement des orgasmes jambes serrées et pareil pour les jambes écartées. Donc si les jambes sont dans la mauvaise position, ça peut ne pas fonctionner.
Alors Catherine Solano, quand vous nous parlez plaisir féminin, parfois vous nous parlez de la gym sexuelle.
Voilà, alors la gym sexuelle, c'est quelque chose qui améliore la survenue de l'orgasme. Le principe, c'est de contracter le périnée, c'est-à-dire les muscles qui sont situés autour du vagin. C'est exactement le même exercice que les femmes qui font de la rééducation périnéale après accouchement. Et ça, ce sont des exercices à faire régulièrement qui facilitent la survenue de l'orgasme.
Alors, justement, on parle du corps, hein, comment arriver à l'orgasme en contrôlant, en maîtrisant certaines choses, mais il se passe quand même aussi beaucoup de choses dans la tête.
Voilà, l'orgasme, c'est pas uniquement mécanique, c'est pas uniquement des contractions musculaires, des mouvements du bassin, ça peut être aussi psychologique. Et donc, il y a des femmes qui ont du mal à avoir des orgasmes à cause de blocages psychologiques, mais dans ce cas-là, disons que c'est un peu plus dur de donner des conseils pratiques, parce qu'il faut souvent un travail de sexothérapie.
Malgré tout, hein, quelques petits trucs psychologiques, quelques petits conseils.
Voilà, par exemple, un conseil, c'est de simuler l'orgasme. Pas du tout pour tromper son partenaire, mais parce que pour certaines femmes, elles disent « quand je simule, ça me chauffe ». Le fait de faire une respiration plus hachée, de pousser des petits cris, eh bien, ça peut créer une excitation chez la femme. Et j'avais une patiente d'une cinquantaine d'années qui me dit « moi, j'avais pas souvent des orgasmes et depuis que j'ai trouvé une méthode, j'en ai tout le temps deux ou trois ». Je simule le premier orgasme, c'est un faux. Et après, du coup, eh bien, j'en ai deux ou trois qui viennent facilement. Et ça l'embêtait un petit peu parce qu'elle avait l'impression de tromper son mari, mais je lui ai dit au contraire, il doit être très content parce que ça marche très bien. Vous avez trouvé votre mode d'emploi. Donc, il faut chercher son propre mode d'emploi. Un autre truc important, mais beaucoup de femmes le font spontanément, c'est de fantasmer pendant l'amour. C'est-à-dire qu'avoir une image érotique, des pensées érotiques d'une situation excitante, ben, ça peut faire venir l'orgasme.
Alors, vous nous donnez des conseils, hein, aux femmes pour qu'elles aillent chercher au cœur d'elles-mêmes leur orgasme, mais il y a quand même un petit peu d'effort à faire de l'autre côté, un petit peu de participation masculine.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Et donc, le plus important pour un homme, c'est de savoir que le clitoris, c'est très important dans le plaisir féminin. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est important qu'il prodigue des longs préliminaires et des caresses pendant longtemps. Parce qu'il faut souvent 3 à 10 fois plus de temps à une femme pour atteindre l'orgasme qu'à un homme. Donc souvent, un homme, il a l'impression qu'il a fait très longtemps des caresses. Et en fait, il faudrait qu'il en fasse 3 fois plus.
Alors, un petit mot de conclusion.
Alors, en conclusion, ben, il faut de la patience et des explorations parce que l'orgasme féminin, ça vient pas forcément tout de suite au début de la vie sexuelle d'une femme. Mais en s'y intéressant et en recherchant, on finit par y arriver.
Une quête très intéressante. Merci beaucoup, Catherine Solano. Le docteur Catherine Solano est là pour répondre à vos questions. Bonjour, Nadège.
Bonjour docteur.
Vous êtes en ligne de Port-Gentil au Gabon. On écoute votre question.
Il y a ma sœur de 22 ans. Elle a des pertes nauséabondes et abondantes, blanches. Dernièrement, elle est partie chez le gynécologue. Elle a suivi un traitement. Mais apparemment, le problème est toujours là.
La réponse du docteur Catherine Solano.
Alors, quand on a des pertes blanches qui ont une forte odeur, souvent, c'est ce qu'on appelle une odeur de poisson. Bon, c'est pas agréable, évidemment, et c'est souvent dû à ce qu'on appelle une vaginose bactérienne. Donc, ces pertes, en général, donc elles ont une mauvaise odeur, c'est souvent à ça qu'on les reconnaît. Elles sont plutôt homogènes, il n'y a pas de petits cailloux, de petits morceaux, elles sont fluides et pas très épaisses. Et puis, en général, leur couleur est plutôt blanche, un peu gris ou grisâtre, et ces pertes, elles peuvent avoir tendance aussi à être un peu collante. C'est l'aspect typique des vaginoses bactériennes.
Alors, d'où ça vient? Pourquoi certaines femmes ont ces vaginoses bactériennes?
Alors d'abord, il faut savoir que c'est pas une infection sexuellement transmissible. C'est dû à un déséquilibre de la flore vaginale. Le vagin, il n'est pas suffisamment acide, alors il n'arrive plus à se défendre contre les bactéries qui sont des ennemis. Et ça peut être dû à une toilette intime trop agressive. Donc ça survient souvent quand une femme se lave l'intérieur du vagin. Et donc, je rappelle qu'il faut absolument laisser cette zone tranquille. Parce que le produit qu'on utilise pour la toilette, si on fait une toilette intravaginale, il va dans le vagin, il diminue l'acidité du vagin. Donc, il est plus assez acide, il se défend mal. Et en plus, le liquide qui remonte fait remonter des bactéries. Parce que au niveau de la peau, de la vulve, on a l'anus qui est pas loin, on a l'urètre qui est pas loin, on a tout qui, la peau. Et donc, sur la peau, partout dans le corps, il y a des bactéries. Et ben, si on lave cet endroit, au lieu de le nettoyer, et c'est comme si on faisait une injection de bactéries dans le vagin. Et donc, c'est ça qui déclenche les infections.
Et quel est le traitement, justement, dans ce cas-là?
Eh bien, le traitement dans ce cas-là, c'est un traitement antibiotique pour détruire ces bactéries. Et bien sûr, en plus du traitement, il faut absolument arrêter de faire une toilette interne si c'est le cas. Et bien sûr, le médecin, il va aussi faire des tests de dépistage de certaines infections sexuellement transmissibles, même si c'est visiblement une vaginose, parce qu'on ne sait jamais, il y a d'autres infections sexuellement transmissibles qui peuvent donner des pertes blanches, mais qui n'ont pas ce genre d'odeur en général, qui se voient très peu. Mais on aime bien faire le dépistage chez les jeunes de moins de 25 ans très souvent. Donc ça peut entraîner des pertes blanches aussi, comme les chlamydia ou les gonorrhées. Je ne pense pas que ce soit ça, parce que ça ne donne pas ce type d'odeur.
Merci beaucoup Catherine Solano. Merci Nadège en ligne de Port-Gentil au Gabon, et bonne journée. Notre émission touche à sa fin. Demain, dans Priorité Santé, à l'occasion de la journée mondiale du psoriasis qui a lieu ce dimanche, nous parlerons de cette maladie inflammatoire chronique de la peau. Si vous voulez témoigner ou poser une question, le numéro de téléphone de l'émission, c'est le 33 1 84 22 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.